Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée au micro Renaud Grégoire. Bienvenue à cette nouvelle émission Question d'aujourd'hui et nous ouvrons très bien l'année 2026 avec une invitée. Je suis vraiment très heureuse qu'elle ait accepté. Elle va nous parler de comment elle a accompagné le pape Léon dans son premier voyage apostolique et nous recevons Marie-Claude Lalonde, directrice de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bienvenue Marie-Claude.
Bonjour Renaud.
Alors, dites-nous d'abord quelques mots sur votre organisation dont le titre est vraiment très clair, Aide à l'Église en détresse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et comment vous soutenez justement ces églises en difficulté?
Oui. Bien, à l'aide à l'Église en détresse, notre but, c'est d'aider justement l'Église à fonctionner en quelque sorte, aider l'Église à aider ses fidèles. Donc, on aide pour du travail pastoral, donc tout ce qui peut être lié à la pastorale, à la formation des religieux. On a un accent assez particulier sur l'Église persécutée, donc les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, et on essaie de leur venir en aide comme on le peut. C'est pas toujours facile, mais c'est un petit peu là le but de notre organisme, et on a toutes sortes de projets un peu créatifs, mais le but est toujours le même, c'est-à-dire d'aider l'Église à faire son travail auprès des gens.
Et votre rôle, vous êtes directrice donc de l'organisme. Ça veut dire que vous avez une équipe avec vous.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans mon équipe.
Et c'est une organisation qui est aussi internationale, donc vous êtes dans plusieurs pays.
Oui, on a bientôt 24 bureaux dans 24 pays différents. Dans ces bureaux-là, le but est de faire de la sensibilisation sur la situation des chrétiens dans le monde et de faire de la collecte de fonds. Et nous avons un bureau international qui, lui, est spécialisé dans l'analyse des demandes d'aide et dans la redistribution des fonds. Tout ça se fait ensemble, on a quand même des rôles un peu différents.
Donc, cette église en détresse, il y a certains pays que vous êtes encore plus présents. Même si vous n'avez pas de bureau, vous avez des actions. Pouvez-vous nous donner une idée géographique de ces pays? Parce qu'on en connaît certains, mais peut-être certains d'autres qui seraient surprenants pour nous de savoir qu'on y trouve justement des chrétiens qui sont persécutés ou oui. En tout cas une église qui est fragilisée.
Oui, c'est ça. Je pourrais donner comme exemple, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, le nord de l'Afrique, et maintenant les pays que l'on aide sont de plus en plus nombreux, et ce que l'on voit, c'est une intensification de l'islam radical. Alors, il faut bien comprendre que je ne parle pas des musulmans en général, mais des islamistes, et ils font vraiment la vie dure à beaucoup de chrétiens. C'est quelque chose là, dans la région subsaharienne qui est en expansion. Donc, théoriquement, on aidait à cause de la pauvreté dans certains pays d'Afrique, mais maintenant, il y a aussi la question de la persécution. On a des pays d'Amérique latine, d'Asie, par exemple, l'Inde, le Pakistan, même la Chine. On fait le tour du monde un peu à notre manière, puisque les fonds sont redistribués dans à peu près 140 pays.
Et vous avez aussi un rapport qui est fort intéressant chaque année, c'est le rapport sur la liberté religieuse.
Oui, en fait, c'est à chaque 2 ans, on a un rapport sur la liberté religieuse et l'année où ce rapport-là ne paraît pas, on a un rapport sur la persécution des chrétiens. Et les deux vont ensemble parce qu'il faut savoir ce que c'est que la liberté religieuse pour comprendre ce qu'est la persécution et donc le manque de liberté religieuse. Et c'est un rapport qui est gratuit et disponible sur notre site web.
Marie-Claude Lalonde, de l'Aide à l'Église en détresse, vous avez eu la chance donc de d'être membre de la délégation qui a accompagné le pape Léon XIV à son premier voyage apostolique, soit 3 jours en Turquie et 2 jours au Liban. D'abord, expliquez-nous comment on fait pour être membre d'une délégation avec le pape Léon qui fait son premier voyage apostolique.
Oui, en fait, ce n'était pas une délégation déléguée par le Vatican, mais on était un groupe de Canadiens, d'organismes canadiens, donc il n'y avait pas que l'aide à l'Église en détresse. Et on a été invités par Monseigneur Tabet, qui est l'évêque maronite canadien. Et lui nous a dit, c'est l'occasion rêvée, venez découvrir mon pays, mon église, à l'occasion du voyage du pape. Et donc, ça nous a permis, là, un petit peu avant que le pape arrive, de nous familiariser avec le pays. Et bien entendu, j'ai aussi visité des projets qui sont des projets d'aide à l'église en détresse, donc des projets que l'on finance pour aussi mieux comprendre ce qu'on fait, mais aussi les besoins.
Alors donc, vous êtes, quand vous parlez de cet évêque maronite, il vous a amené en Turquie. C'est en Turquie que vous êtes rencontré ou au Liban?
Au Liban.
Au Liban, oui. Merci. D'accord. Est-ce que vous avez pu aller en Turquie?
Malheureusement, je ne suis pas allée en Turquie, mais j'ai fait comme tout le monde. J'étais curieuse de voir qu'est-ce que le pape allait faire en Turquie, quels allaient être les points importants de sa visite. On avait quand même une certaine idée, mais moi, je pense que cette visite-là, je l'interprète de deux manières. C'est-à-dire, il est allé visiter les catholiques, plus largement les croyants, les chrétiens, en geste de solidarité. Donc, je pense que pour le pape, c'est toujours quelque chose de bien important de montrer qu'on est en solidarité. Hein. Le pape ne peut pas tout régler, mais il est avec les gens. Et donc ça, je pense que c'était peut-être la première partie ou le premier noyau de sa visite là-bas. Et assurément, ce qui a retenu l'attention, ce qui a aussi retenu mon attention, c'était toute la question du dialogue interreligieux, aller à la rencontre de l'autre. On a même vu des images qui sont un peu saisissantes, c'est-à-dire le pape dans la grande mosquée bleue d'Istanbul. Alors, bon, jamais j'aurais pensé voir ça, mais je pense que c'est un message, la visite en soi est un message important.
Oui, effectivement, que le pape Léon XIV entre dans cette mosquée, écoute les explications. Vraiment, c'est un geste d'ouverture, un geste de, on pourrait dire, qu'il reconnaît, et c'était son premier message en Turquie, qui reconnaît les liens de l'origine du christianisme qui sont en Turquie. On l'oublie souvent, mais les premières communautés dans les premiers siècles étaient sur le territoire de la Turquie. Oui. On oublie ça souvent. Et il a rappelé aussi cette fraternité aussi qui se vit en Turquie, malgré que c'est un pays qui est dans une situation géographique pas facile.
Effectivement,
et ça, c'est assez frappant.
Oui, c'est ça. C'est une région qui est toujours en ébullition hein, pour l'ensemble du Moyen-Orient. On pense souvent Moyen-Orient, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, mais il y a aussi toutes sortes de minorités, comme par exemple, j'en ai appris un peu plus sur les Alaouites lorsque j'étais au Liban, un tout petit groupe. Donc, ce que le pape fait par rapport à l'islam et aux musulmans, c'est aussi là un geste qui est plus large. Si je rencontre le groupe dont on parle le plus, il fait toujours savoir qu'il est là pour tout le monde. Il a d'ailleurs rencontré Bartholomé Ier, qui est le patriarche orthodoxe de Constantinople. Ça aussi, c'était quelque chose de notable. Le but de la visite à l'origine, c'était peut-être pas ça. Mais compte tenu des tensions qu'il peut y avoir entre les catholiques et les orthodoxes, surtout depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je pense que c'était un beau message de tendre la main aussi aux orthodoxes, même si le but premier, c'était peut-être pas tout à fait ça.
Une chose aussi que le pape Léon nous a appris à travers ses discours, c'est l'attachement de Jean XXIII à la Turquie, puisqu'il a été délégué apostolique de 1935 à 1958. Et je crois que c'était le premier aussi, non seulement délégué apostolique qui était en Turquie, en Grèce, à devenir pape, mais Jean XXIII est retourné en Turquie et tous les autres papes sont allés en Turquie. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important dans le lien avec l'Église d'Orient que vous avez justement signalé.
Oui, effectivement, je pense que c'est un lien qui date, comme on le voit là, depuis de nombreuses années. C'est peut-être aussi significatif dans le sens où il y a bien des petits pays du Moyen-Orient dont on connaît peu d'informations, peut-être un peu plus la Turquie. Donc, ça donne aussi une visibilité, un message plus clair, un message de dialogue, un message de compassion, vraiment un message de vivre ensemble. Et je pense que ça représente tout ça, pas juste pour la Turquie, en fait.
Un vivre ensemble pour aujourd'hui, mais il y a eu aussi un vivre ensemble en l'an 325 avec ce fameux concile de Nicée qui était en Turquie.
Oui, oui.
Et qui est la première, au fond, profession de foi qui réunit les orthodoxes, les catholiques et aussi les protestants. Et ça aussi, il voulait marquer les 1700 ans de cette profession de foi. Donc, les chrétiens qui ont dû, en 325, avec les évêques réunis, ont dû se redire leur foi pour s'assurer d'une unité. Et ça, c'est aussi frappant. Et je pense que cette unité, le pape Léon y tient beaucoup.
Oui, le pape Léon y tient beaucoup. Il tient à l'unité tout d'abord dans le sens écuménique, c'est-à-dire une unité qui inclut tous les groupes chrétiens, ça c'est une chose, mais il y a aussi une certaine unité avec les autres populations et c'est peut-être une unité dans notre humanité justement que ça vient apporter là cette visite là. Et je peux aussi dire, pour avoir discuté avec certaines personnes lors de mon voyage au Liban, que cette unité, elle est souhaitée au Moyen-Orient, elle est véritablement attendue.
Marie-Claude Lalonde, vous dites que cette unité, elle est souhaitée, attendue. Or, c'est pas toujours la perception qui est faite de certains médias de ce qui se passe dans ces pays. On voit beaucoup plus les conflits, les difficultés. On met beaucoup plus en évidence ce qui sépare, ce qui désunit, que cette volonté d'unité.
Mais je pense que c'est aussi le fait des médias. On rapporte pas les bonnes nouvelles, on rapporte les mauvaises. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Pourquoi je dis ça, c'est que j'ai eu des discussions avec des religieux, par exemple, au niveau des dates entre, même les dates de fête entre les catholiques latins et les catholiques byzantins, donc orientaux. Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus? Ben les gens disent oui. Est-ce qu'on est capable de travailler avec les autres chrétiens? Bien sûr. Est-ce qu'on est capable de travailler avec les musulmans? C'est pas toujours aussi clair, mais quand même, on voudrait bien. On voudrait bien le faire parce qu'on sait que s'entendre avec les autres, majorité, minorité incluse, eh bien, c'est un avenir meilleur pour le pays, pour les familles, pour les enfants, pour l'avenir, quoi.
Marie-Claude Lalonde, avant nous allions au Liban avec vous et avec le pape, quelle est la situation justement des chrétiens, des catholiques en Turquie? Est-ce que c'est une église qui est assez bien acceptée de manière générale ou il y a peut-être des difficultés là qui sont présentes?
Il y a encore un certain nombre de difficultés. Il faut dire que les catholiques sont un tout petit groupe maintenant en Turquie. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et donc, oui, il y a encore parfois des accrochages, mais il faut toujours faire la distinction entre des accrochages, par exemple, causés par le gouvernement et des accrochages dans la vie de tous les jours. Et donc, on a eu des décisions gouvernementales qui ont soulevé des tollés en Turquie, notamment la réassignation de mosquées, d'églises et de choses comme ça, même pour en faire des musées, au détriment des groupes de foi. Mais sur le terrain, je pense que c'est, comme dans la plupart du Moyen-Orient, souvent c'est beaucoup plus calme quand on regarde la vie de tous les jours.
Et oui, et souvent, les gens de différentes confessions vivent dans la même rue, dans le même quartier, dans la même ville. Donc, il y a une espèce de vivre ensemble quand même au quotidien là qui est là. Et les gens, comme vous dites, souhaitent cette unité.
Oui, les gens souhaitent la paix. Et c'est ce que nous aussi, on devrait souhaiter pour l'ensemble du Moyen-Orient.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Marie-Claude Lalonde, directrice de l'Aide à l'Église en détresse, une organisation. Et Marie-Claude Lalonde a été invitée à se joindre à cette délégation qui accompagnait le pape. Et vous avez été surtout au Liban. Alors, parlez-nous comment ça se passe dans le concret, c'est d'être dans le cercle très près du pape, mais qui, lui, est tourné vers la situation du Liban, vers les Libanais, les Libanaises, et aussi des gens qui se sont sans doute rendus au Liban et qui venaient de d'autres pays avoisinants.
Oui, ben effectivement, j'ai rencontré des Syriens qui étaient là au Liban pour la visite papale. Comment ça se passe? Comme je le disais tout à l'heure, j'étais pas tout à fait dans le cercle très très rapproché, mais d'être partie d'un groupe, d'une délégation comme ça, je dirais que ça, quelque part, ça décuple le plaisir parce qu'on en parle avant, on se demande comment ça va être, on échange sur les situations qu'on rencontre et qu'on voudrait bien voir le pape peut-être discuter publiquement. Et donc, j'ai trouvé l'expérience vraiment enrichissante parce que j'ai été avec des organismes qui font du travail parfois similaire au nôtre, parfois différent du nôtre, mais ô combien complémentaire. Et donc, on voit que justement, c'est l'union qui nous permet de pouvoir véritablement faire une différence dans la vie des Libanais. Il faut dire, la vie est difficile en ce moment. Une crise économique épouvantable qui dure depuis des années. On me disait, le taux de change, là, c'est astronomique. Ça prend presque une valise pour emmener ses billets pour aller payer l'épicerie. Là, c'est la dévaluation de la monnaie. Qu'est-ce que ça cause? Ben, ça cause des familles qui ont de la difficulté à se nourrir, des familles qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants dans les écoles catholiques. Et ça, pour les catholiques, c'est quelque chose de vraiment très, très important, parce qu'à l'école publique, on se retrouve en majorité musulmane et le niveau d'éducation n'est pas très bon. Figurez-vous qu'il y a des grèves constantes dans les écoles publiques parce que le gouvernement ne paie plus ou très peu les professeurs.
Donc, une situation qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait pu imaginer.
Effectivement, parce qu'on peut penser à la prospérité quand on parle Exactement. Du Liban, et cette prospérité-là, elle est partie, sans parler là du risque d'une guerre qui plane toujours au-dessus de la tête des Libanais.
Ils doivent sentir effectivement cette tension-là d'une possible guerre, ou enfin ils sont à la frontière là de d'autres pays où il y a déjà effectivement des menaces. Marie-Claude Lalonde, le pape Léon XIV a parlé beaucoup d'être artisan de paix. Il nous a même décrit dans son discours sur les rencontres avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Il nous a parlé de ce que c'était que être artisan de paix. Il a parlé qu'un artisan de paix souhaitait qu'il y ait un seul langage, le langage de l'espérance qui fait converger tout le monde vers un recommencement toujours nouveau. C'est très fort.
C'est très fort et c'était le thème de la visite papale, hein? Artisan de paix. Au début, je me suis posé des questions, comment ça allait s'articuler, mais ça s'est articulé au départ de manière un peu plus subtile. Et au fil des rencontres, on a vu à quel point le pape prenait ça au sérieux. Et pour ceux qui auront peut-être regardé à la télévision ou lu, lorsqu'il a quitté le discours avec les gens du gouvernement et tout ça, à l'aéroport au moment du départ, c'était non seulement une leçon de paix, mais c'était aussi un programme. Hein, on disait, on s'est parlé de paix, mais maintenant, il faut que les choses se fassent. et il incitait les gens à mettre en œuvre cette idée de la paix. Et je pense que le message était très clair pour les autorités politiques. Ça pouvait difficilement être plus clair. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris qu'il prenne cette voie-là, mais toujours dans la douceur, c'est ce qu'on connaît du pape Léon, dans la douceur, dans la diplomatie, mais quand même avec fermeté.
Marie-Claude Lalonde, le pape Léon XIV a aussi souligné le rôle indispensable des femmes, et je le cite, dans l'effort laborieux et patient pour préserver et construire la paix. Et peut-être que c'est quelque chose qui est pas assez souligné, le rôle des femmes qui veulent vraiment, qui œuvrent pour la paix et qui veulent justement, par leur participation à la vie sociale et même certaines politiques. Est-ce que vous avez pu voir que c'est pas juste un désir, la paix chez les femmes, mais qu'elles agissent aussi pour paix soit présente?
Les femmes agissent en faveur de la paix, c'est certain. Il y a aussi, pour moi, la chose intéressante, c'est qu'au début de son pontificat, tout le monde disait on ne sait pas quelle est son opinion sur les femmes, est-ce qu'on va reculer, est-ce qu'on va avancer? Et là, je pense qu'il nous a donné une idée claire et peut-être même une mission claire, c'est-à-dire d'être toute artisane pour la paix.
Dans son voyage au Liban, il a beaucoup insisté sur les jeunes et les femmes aussi. Et afin, dit-il, que le Liban reste une terre pleine de vie. Et tout se rappelle donc de la paix et du lien avec la vie. C'est vraiment des textes très forts qu'on peut même
lire et relire, je pense.
pour nous ici. Mais Marie-Claude Lalonde, il nous reste quelques minutes. Parlez-nous de ces rencontres que vous avez faites. Vous nous avez parlé donc de cet évêque maronite aussi. Qui vous avez rencontré? Qu'est-ce que vous avez appris des gens du Liban?
On se rend compte en fait que les évêques d'ici qui servent des populations qui sont à l'extérieur, eh bien que ces évêques-là ont un véritable souci de la population qui est au pays. Et donc, pour moi, ça a été presque une lettre d'amour d'un évêque maintenant canadien envers le Liban, envers la population, avec un grand, grand désir d'aimer.
Il a aussi fait un discours au sanctuaire Notre-Dame du Liban et il a repris cette image de Marie près de la croix de Jésus, rappelant aussi les souffrances du Liban, même dans cette recherche de paix. Et il me semble que cette attention du pape Léon XIV aux souffrances, elle est bien présente. Et peut-être pour ça qu'il a choisi, entre autres, d'aller au Liban.
Oui, elle est effectivement très, très présente. J'étais à Notre-Dame du Liban, c'était la rencontre pour les consacrés et ça a trouvé un écho. On a parlé du thème qui était artisan de paix, mais je dirais que le sous-thème qui se dégageait, c'était de trouver un avenir pour le Liban, un avenir dans la paix, bien sûr, mais de trouver des voies d'avenir, parce que, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais le spectre de la guerre est très, très présent. Les Libanais sentent la pression, nous-mêmes, on sentait la pression lorsqu'on y était.
Et comment ils font pour garder l'espérance, étant conscients justement de ces tensions et de cette pression qui est sur eux? Comment ils font pour garder l'espérance?
Oui, ben j'oserais dire, moi, ce qui m'a surpris, en fait, le pape a été un grand, grand vecteur d'espérance. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est toujours la question de fois qu'il est reparti, mais un grand, grand vecteur d'espérance. Et comment on fait pour passer à travers ce stress-là? Ben on vit, tout simplement. La vie est, on ne peut plus normal. Bon, une normalité dans une situation difficile, mais quand même, on continue à vaquer à ses occupations. Et je pense que les étrangers qui étaient sur place, ça nous a tous frappés de voir que on attend la guerre d'une minute ou d'une journée à l'autre, puis qu'en même temps, tout est tellement normal.
Marie-Claude Lalonde, ce n'est pas votre premier séjour à l'extérieur du Québec, du Canada. Vous avez eu la chance d'aller dans plusieurs pays, mais vous êtes allé au Liban. Qu'est-ce que vous rapportez comme souvenir, non pas un souvenir qu'on achète à l'aéroport, mais intérieurement ou dans votre tâche comme directrice de l'aide à l'Église en détresse, qu'est-ce que ça apporte de plus pour vous d'avoir été proche justement de ce séjour du pape, de son voyage, et aussi qu'est-ce que ça vous a apporté, ces contacts que vous avez faits sur place?
Ouais. Je dirais que mon plus grand souvenir, évidemment, c'est toujours un souvenir de rencontrer le pape, mais c'est la population, c'est les gens que j'ai rencontrés. C'est de voir à quel point notre solidarité est importante, parfois bien au-delà de l'argent, de savoir qu'on est là, on se tient à leur côté, on compatit à leurs difficultés, et même dans le cas du Liban, ben avec le spectre de la guerre, tous les étrangers qui restaient, je pense que c'était un témoignage fort qui a été bien reçu. Alors, c'est la solidarité, mon grand souvenir.
Marie-Claude Lalonde, directrice de l'aide à l'Église en détresse, un grand merci d'avoir été avec nous à Question d'aujourd'hui.
Merci.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.